Tête avec 30 degrés, le magazine de loisirs et de sport, 30degrés.ch. Bille en tête, Philippe Ligron et Duja.
Bonjour monsieur, c'est Bille en tête sur la première. Vous sauriez où c'est, Orvin ?
Non.
Ça vous intéresse ?
Non, bah plus de vin.
Salut tout le monde, salut Philippe.
Salut Duja, bonjour à tous.
Bille en tête, direction les Prés d'Orvin, Philippe, au Bison Ranch de monsieur Christian Lecomte, et non pas André Lecomte, parce qu'on avait rendez-vous avec un André Lecomte, mais qui est impossible à atteindre.
Oui, il y a beaucoup de Lecomte, il y a beaucoup de noms qui sont...
De Jean de Revin, oui. De Jean... Mais il y a deux familles là-haut.
Non mais c'est vrai, on dirait qu'ils portent tous le même nom. Mais quoi que c'est souvent comme ça, hein. C'est, moi j'habite dans un petit village, il y a beaucoup de Ducs, de Pichonins, de Seine, enfin c'est toujours les mêmes noms, tu vois. Et d'Aiglon par exemple, enfin ça dépend des coins bien sûr.
Et Ligron, ça vient d'où ?
Ligron, c'est le croisement du lion et de la tigresse. C'est un animal stérile. C'est un hybride, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Un peu comme les mulets, par exemple. Non, c'est vrai.
Qu'est-ce que tu me racontes, là ?
Je te jure que c'est vrai. Et le tigron, c'est le tigre et la lionne. Non, c'est impressionnant. Et c'est un animal qui n'est pas logique, puisque c'est un croisement d'animaux qui ne sont pas du même continent, le tigre et le lion. C'est très rare. On le trouve dans les eaux.
Tu te fous de ma gueule, là ?
Je te jure que non. Le ligron, c'est le croisement du lion et de la tigresse.
Quand je te demande d'où ça vient, c'est de quelle origine ? Je m'en fous de l'explication de texte.
D'où ça vient ? Je sais pas, du centre de la France, je pense. D'où originaire mon père.
Je pensais que toi, le féru d'histoire, tu voulais absolument savoir l'étymologie de ton nom.
Non, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère savoir ce que l'histoire a apporté à l'humanité plutôt que de savoir ce que l'origine, l'étymologie de mon nom a apporté à l'humanité, tu vois.
Philippe Ligron, tu apporteras énormément à l'humanité.
Ah ben, et un peu mon neveu.
Alors Philippe envoie des vaches dans un pré, tu me demandes si ce sont des bisons. Non, ce ne sont pas des bisons, ce sont des vaches, Philippe.
Elles avaient l'air très poilues, c'est pour ça que j'ai dit ça.
C'est quoi la différence majeure entre le bison et la vache ?
Ce sont deux bovidés, donc la même origine, mais on dit que la viande de bison est plus saine pour l'organisme, pour l'alimentation humaine, que ne le serait la viande de bœuf. Alors nous allons contrôler tout ça cette semaine.
Ça vient d'où le bison ?
Le bison, originaire d'Amérique du Nord. Alors après, il y a plusieurs sortes de bisons. Je crois qu'il y a deux ou trois races de bisons. Mais le plus communément utilisé, le bison du Nord, ça fait.
Bille en tête auprès d'Orvin, bientôt le bison ranch qui pointe au loin.
Mais alors loin, hein. Parce que...
Alors pour situer, pour ceux qui ne connaîtraient pas vraiment cette région, nous sommes sur le flanc sud-est du Chasseral.
Exactement. Et là, on va demander quand même.
Ouais, on va demander. Arrête-toi. Bonjour, monsieur, dame. Nous cherchons le Bison Ranch. Vous savez où c'est ? Bison Ranch, c'est là-bas ?
Oui, c'est... Faut monter tout en haut et puis vous verrez.
Ok, il y a plein de bisons. Ils sont gentils.
Je n'ai jamais touché.
D'accord.
Merci, hein. Bonne journée.
Au revoir.
Ça sent le ranch.
Ah, Philippe, il y a un drapeau américain.
Ah ben, ça me plaît, alors. Et puis on se croit vraiment dans un ranch parce qu'il y a une entrée comme au Far West, c'est, avec des roues et tout. Peut-être qu'il y a des Apaches.
C'est beau.
Ouais, c'est magnifique. Non, sérieux, c'est super beau.
Description, Philippe.
Alors, description, nous sommes sur un haut plateau, c'est ça, on peut dire comme ça. Au milieu de bois, mais en même temps, c'est assez dégagé. On voit que ça a été pas mal déboisé pour laisser la place à des clairières, à des champs, permettant d'élever les bisons. Et puis là, on arrive sur une très grande exploitation agricole. Et il semblerait qu'il y a même des animations pour les gamins. Enfin, ça a l'air pas mal...
Et un gros chien noir qui arrive vers nous.
Et puis, il n'a pas l'air content.
Ouf.
Oh là là. Moi, je reste dans la voiture.
Oh là là.
C'est là, tu crois ?
Moi, je sais pas. Il y a intérêt, hein.
Appelle-le. Tu viens de chercher son molosse. Adieu tout le monde, j'y vais.
Bonjour madame. Je recherche le pays des bisons-ours.
Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je n'ai pas d'ici en plus.
Le pays des bisons-ours.
Je ne sais pas ce que c'est.
Ils sont tous en miel.
Ça existe?
Oui.
Où ça?
À Orvin.
Oh, c'est
le
où,
pays des bisons-ours, au Chasseral.
Je connais pas.
Ils sont tous en peluche, comme des brocolis en peluche avec du miel.
J'ai jamais mangé des brocolis en peluche.
Au revoir.
Au revoir.
J'y vais de ce pas. D'accord. La recherche du pays des bisons-ours.
Peut-être on l'a trouvé.
Oui.
Oui.
Cache bien dans la forêt.
Ça, voilà.
Alors Philippe, il est quand même gentil ce chien.
Oui, bah finalement, il faisait plus de bruit qu'autre chose. Alors c'est vraiment très joli, hein, c'est rigolo, ce côté un peu far west. Plein milieu de la forêt, comme ça. Allez, c'est parti.
Bonjour.
Christian Lecomte. Philippe.
Christian,
enchanté.
Salut, Duja.
Ça va bien?
Ça va et toi?
Un petit peu essoufflé, ouais.
Christian, on est où ici exactement? Pour situer, pour tous ceux qui habitent si loin vers le lac Léman.
Si tu vois l'émetteur de Chasseral, tu prends pile poil à l'est, je suis le premier habitant.
Puis alors, comment ça se fait que... On peut se tutoyer?
Oui.
Comment ça se fait que t'es arrivé ici? C'est une exploitation familiale ou tu t'es dit je vais faire le Far West dans le Jura?
Non, mais ça c'est mon rêve de gosse. Depuis tout petit, moi je suis là. À 7 ans, mon père a loué cette montagne. Et puis après, on a développé. Moi, quand j'ai repris à mon père, j'étais jeune, 25 ans. Puis quand j'ai eu 26 ans, j'ai commencé avec 5 bisons. Et puis gentiment, ça fait un bout de temps qu'on a un paquet de bisons maintenant.
Mais alors pourquoi des bisons? Pourquoi pas des vaches?
Commercialiser une quantité de lait comme on avait avant, on avait un contingent de 125 000 kg de lait, il aurait fallu le fabriquer pour le remettre en vente, et puis ça, c'est beaucoup de travail. Donc moi je préférais faire peu de marchandises agricoles et puis bien la vendre avec un prix supérieur.
Parce que le bison, c'est pour la viande, c'est pour le folklore, c'est pour le lait, comment ça se passe?
Alors, au début, quand on a 5 et puis tu as l'exploitation agricole, c'est pour le folklore. Mais pour monter un truc comme ça, si tu mises toutes tes billes dans le même panier, il faut avoir les moyens. Donc, petit à petit, on a commencé avec 5. Puis après, chaque fois qu'il y avait des baisses de prix du lait, parce qu'on avait le prix du lait, moi j'ai commencé pendant une année à 1,07 franc. Et puis après, 125 000 kilos de lait, ça fait 10 centimes de moins chaque année, ça fait 12 000 balles de moins. Mmh. 1000 balles de moins par mois.
C'est bien qu'on parle de ça parce que, sauf erreur, je crois que le lait est actuellement au prix qu'il était dans les années 40, c'est juste? On est dans ces eaux-là?
Je ne sais pas là, mais c'est une catastrophe. Quoi. Le secteur laitier, si ce n'est pas une production qui est mise en valeur par du fromage...
Alors c'est quoi la solution? C'est peut-être de regrouper ces fermes et faire des grosses entreprises, ou c'est de transformer les produits, garder ces petits contingents? Comment
non,
on peut s'en sortir?
Faire un produit final, donc en fromagerie, des choses comme ça. Mais l'industriel, c'est clair que... Faut pouvoir se démarquer.
C'est quand même fou, la Suisse qui se pose comme ça en défenseur des produits laitiers, hein, qui c'est un peu sa marque de fabrique, sa carte d'identité, le produit laitier, le fromage, le lait, le chocolat, et qui traite si mal ses producteurs de lait. C'est quand même bizarre.
C'était prémédité, ça. Quand on voit les surfaces agricoles qui ont été sacrifiées pour l'industrie, pour l'habitat, on a matraqué les prix pour que le paysan soit complètement KO pour qu'il puisse accepter ça. Ça, c'est sûr.
Et les paysans se défendent bien maintenant, d'après toi, ou alors on pourrait faire mieux?
Non, on les endort.
Faudrait-il donc une jacquerie, comme on disait à une certaine époque, Philippe?
Mais c'est ce qui risque bien d'arriver. Du reste, ça a commencé il y a quelques années en arrière. On l'a vu à Lausanne et dans certaines grandes villes où il y a des paysans qui ont commencé un peu à secouer le cocotier et débarquer avec leur boy à lait pour gueuler, quoi. Parce qu'à un moment, c'est bon, quoi. Enfin, j'entends. Le problème, c'est quand tu commences à vendre à perte, où est la logique? C'est comme si, en tant que salarié, pour les gens qui nous écoutent, tu vas travailler, mais tu dois payer. Ça te coûte de l'argent et t'as pas de salaire. Au bout d'un moment, tu te poses la question de te dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va devenir? Surtout qu'en plus, dans le monde paysan, il y a une autre considération qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est le fait qu'on hérite d'un domaine, on hérite d'un passé, d'un patrimoine, d'une culture que n'a pas forcément un employé qui va vivre, lui, dans une entreprise, et que finalement, c'est un salarié, point barre. Alors que dans le milieu agricole, on a toute cette tradition et ce comme un devoir, finalement, qui peut être lourd à porter parfois, et on ne va pas vendre son domaine, on ne va pas se recycler pour un paysan aussi facilement qu'on va changer de job pour un salarié.
Souvent, on nous dit, oui, mais bon, les paysans sont subventionnés. C'est quoi exactement le système en Suisse? On peut expliquer comment ça fonctionne?
Alors, on est payé à la prestation. On fait des prestations écologiques, on rend des services à la société, en faisant les foins plus tard sur certaines parcelles, en occupant le territoire. Et puis là, ce n'est pas des subventions directes, c'est des paiements directs à la prestation.
Et d'après toi, c'est un bon système ?
Tant que ça ne dépasse pas un certain stade, mais là, c'est dépassé plus que le certain stade. C'est quelque chose d'affolant.
Et là, on doit s'adapter à une nouvelle loi du marché, à des nouvelles contingences, à des nouvelles difficultés. C'est pour ça qu'on essaie de développer d'autres produits. Alors, de l'agrotourisme aussi, ça fait partie de la façon de se relever ?
Oui, moi, je peux le faire, l'agrotourisme. Et si tout le monde le fait, moi, j'ai la place. Hein. J'ai 80 hectares, j'ai des terres, je ne peux pas faire des carottes. L'année, je viens de partir, maintenant, les jonquilles, dans 15 jours, il y aura un tout petit peu d'herbe. Et puis l'automne, vient très vite, l'année vient très vite. Moi, je cours en végétation, je ne peux pas faire n'importe quoi ici. Donc, le bison va très bien parce que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà reprendre les institutions agricoles. C'est le seul corps de métier qu'au début de l'année, on ne sait pas à quel prix on va avoir nos céréales. On va mettre à disposition nos terres, on va semer, on va mettre des installations à disposition, on va s'endetter pour faire un produit et puis on n'a pas le prix au début de l'année. Alors, combien de temps il faudra que nos institutions, nos partenaires, nos partenaires qui soient là, la Migros, la Coop ou Fenaco, ben c'est ces grands groupes qui distribuent après, combien d'années ou de mois il faudrait pour définir le prix au départ? Ça, je pense que ça pourrait se faire en une année ou deux ans, puis après faire la grève. Faire la grève spontanément parce que le prix du lait ne va pas, non, mais il faudrait pouvoir donner un agenda, et puis cet agenda, il faudrait pouvoir le tenir, et puis tout le monde au bout de la table, et personne ne puisse se défiler.
Et les politiques, alors, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Il y a des alliés? Vos alliés sont-ils vos alliés? Ça peut se décider aussi au niveau politique, ce genre de choses.
Tous les partis prennent un petit peu en charge l'agriculture. Alors, quand ils veulent discuter, ils ne connaissent pas grand-chose quand même.
Et c'est dur de s'y connaître forcément.
Ah ben c'est très complexe. Ouais.
C'est pour ça qu'on est venu aussi. On va en apprendre un petit peu plus. Ouais. Juste pour détendre l'atmosphère, c'est bien de parler de tout ça, des problématiques, mais en même temps, on aimerait bien voir ces bisons. Ça te dit qu'on aille un petit peu se balader vers ces bisons, voir ce qu'il en est?
Vous êtes équipé en botte parce que justement la neige vient de fondre, puis maintenant ça va un petit peu faire la gadoue. Mais on peut y aller.
Philippe, t'as du temps pour nettoyer la bagnole de la radio après?
Que devient ton poing quand tu tends les doigts? Que deviennent tes larmes quand tu ne les essuies pas? Que devient ton rire la nuit sous d'autres toits? Que deviennent tes lèvres murmurant tout bas des mots pleins de fièvre? Un autre que moi disent-elles la même chose que nous deux autrefois? Que devient ton poing quand tu tends les doigts? Que devient mon souvenir quand tu n'y penses pas? Va-t-il bientôt mourir comme nous deux autrefois? Quand il y avait tout à salir, même toi et moi. Que devient ton cœur quand il pense à moi? Bat-il toujours si vite ou s'est-il mis au pas? Moi je crois qu'il évite de palpiter pour moi. Que devient ton poing quand tu tends les doigts? Que deviennent tes jambes, fuyons, rappelle-toi. Que deviennent tes cuisses, y penser vaut mieux pas. Car sinon je glisse et je ne peux pas aller plus bas. Que devient ton poing quand tu tends les doigts? Que deviennent tes larmes quand tu ne les essuies pas? Que devient ton rire la nuit sous notre toit? Que devient ton poing quand tu tends les doigts?
En tête, du lundi au vendredi, 9h30, 10h.
On voit donc des constructions dans la cour ici, Philippe.
Oui, des constructions qui ressemblent étrangement à ces films de cow-boys et d'indiens qu'on pouvait regarder, tu sais, quand on était gamin avec John Wayne à la télé. Moi, j'adorais ça. Donc voilà, ça ressemble à ces décors de cinéma avec ces balcons ouverts où on peut attacher le cheval devant. Puis la cabane, on a l'impression qu'il y a un shérif qui va sortir d'une minute à l'autre.
Toi, t'aurais été quel genre de cow-boy?
Moi, Monsieur Ingalls dans la petite maison à la prairie. Ça me va bien, moi.
Alors, question, les constructions, là, les constructions western, c'est des prototypes, tu nous as dit. Il s'agit de quoi exactement?
Donc ça sera un petit camp nature, avec toilettes sèches, respect de l'environnement. Donc se laver avec une lavette puis une bassine. Puis la douche, ben, une fois par semaine, ça ira aussi.
Comme toi, Philippe, hein, une douche par semaine ?
Oh ben ça, c'est quand je suis à la ville, sinon à la maison, c'est une fois par mois. Moi.
Et puis, ça va être destiné à qui ?
Alors, aux courses d'école, parce que juste à côté, on est en accrobranche depuis 10 ans. Au début, il y a 10 ans, on était 4 en Suisse romande à faire des activités dans les arts. Maintenant, on est 36, 37. Puis maintenant, on va remettre de la qualité, parce qu'au début, quand on est l'accrobranche, on avait le gîte en tipi. Et puis, on faisait 2500 nuitées. C'était des personnes potentielles pour faire le forest jump. Puis après, on est embêté, les autorisations, les choses comme ça, on était plus vite que la musique.
C'est complexe au niveau installation, il y a des normes de sécurité draconiennes ou est-ce que chacun fait comme il veut ?
Non, mais ils ont dans l'accrobranche, ils ont une charte entre eux et puis c'est ils veulent pas se tirer une balle dans le pied. Quoi.
T'as jamais fait ça, Philippe ?
Si, moi j'adore.
Ouais, mais c'est un peu physique quand même, hein, parce que parfois certains croient qu'ils vont juste se balader comme ça d'arbre en arbre. Il y a des fois où, enfin je veux dire, faut pas faire l'apéro avant quoi.
Oh ben non, ça c'est clair.
On essaie de trouver un petit chemin qui n'est pas trop embourbé.
Allez.
Bonjour madame, bille en tête sur la première.
Je suis très très pressée.
C'est très rapide madame, très rapide.
Vous voulez savoir.
Quel serait le nom idéal pour un bison femelle ?
Quel est le ?
Le nom idéal pour un bison femelle.
Aucune idée.
Laurence.
Laurence.
Laurence Bison.
Ah ben je connais pas.
Les licodeurs ?
Oui, je connais pas.
Alors Philippe, à ton avis, un bison, ça pèse combien ?
Oh, ça va pas peser beaucoup plus qu'un bovin, normal, je pense, je sais pas, une tonne, 100 kilos, 800.
Ah, une fois qu'ils viennent un peu vieux, ils sont un peu comme les humains. Jusqu'à 30 ans, ils font 800 kilos, puis après, ben, ils peuvent arriver à 1000, 1200, 1300, puis c'est comme je te dis, plus ils viennent vieux, plus ça vient grand. Oui. Mais les miens, ils atteignent pas beaucoup plus que 7-8 ans. Parce qu'après, ben, y a le problème, c'est qu'ils vont saillir leurs descendantes.
D'accord.
Et la viande, quel genre de viande on peut commercialiser là-dessus ?
Oh ben tout alors. On va faire la langue de bison, j'ai que des connaisseurs qui viennent la prendre, c'est eux qui me donnent leur date quand ils ont envie de la manger.
Et puis cette langue, elle a quoi de particulier la langue de bison par rapport à la langue de bœuf ?
Ben elle est plus fine, moi j'adore la langue. Hein. Elle est plus fine, elle est plus délicate. Et puis à l'époque, c'était la seule pièce de viande qui prenait des massacres de bison. Ils prenaient les peaux et la langue qu'ils faisaient dans les grands restaurants à New York.
Buffalo Bill ?
Certainement.
Lui, il a fait un massacre, Buffalo Bill.
De bison ? Ah oui. Il en a beaucoup abattu ?
Ah, des milliers.
Ah bon ? Et puis qu'est-ce qu'il en faisait ?
Ah ben ça, je sais pas.
C'est incroyable. Ben, moi, ce matin, j'ai préparé de la langue, justement. Et la langue de veau, je l'ai mise à
au
cuire.
Au petit déjeuner, donc, tu te fais des langues de veau.
Je prépare ça, puis pour montrer aux élèves ce que c'est que la cuisson basse température, longue cuisson, et voilà, on a mis ça à cuire, ça va cuire toute la nuit en basse température.
Alors donne-nous une recette de langue de veau. Bah, ou de bison ou de bœuf.
J'ai préparé simplement une petite mirepoix avec un bon fond brun qu'on a fait ensemble avec les élèves. Et puis une petite garniture aromatique dedans. Petite, pourquoi ? Parce que le sous vide a la particularité de concentrer un peu les goûts, du fait qu'il n'y a pas d'évaporation. Et puis on a mis ça sous vide, on l'a mis au four, je l'ai mis 20 heures à 71 degrés, on va voir ce que ça donne.
20 heures à 71 degrés ?
Ouais, et franchement, au niveau des cuissons basse température, on arrive à préserver énormément de saveurs et de textures, une texture incomparable à pas mal de viande que tu cuis comme ça.
Et tu fais quoi pendant 20 heures devant ton four ?
Ben, tu fais plein de choses en fait, c'est ça. Le seul problème, c'est que c'est vrai qu'après, tu as un four qui est occupé pendant 20 heures, mais si tu l'utilises pas l'après-midi, demain matin, je vais arriver, elle sera juste prête et ce sera super.
La mirepoix, c'est quoi exactement ?
Alors, la mirepoix, c'est une garniture aromatique qui est un assemblage d'oignons, de carottes et de céleri boule, céleri pomme. Et puis en général, on garde la proportion 4-2-1, c'est-à-dire que pour 4 fois l'oignon, on va mettre 2 fois de carottes et 1 fois de céleri. C'est une proportion qui est assez logique. Et une mirepoix blanche, on remplace la carotte par le poireau et on utilise une mirepoix blanche généralement pour des fumées de poisson.
Bravo Philippe Ligon, quel chef. Bonjour monsieur, bille en tête sur la première. Quelle est la particularité du bison ?
Du bison, qu'est-ce qu'est un bison ? Bison, c'est un animal des plaines, je ne sais pas.
Des plaines de où ?
Des plaines de l'Orbe.
Ah, il y a des bisons là-bas ?
Ouais, peut-être bien.
Ouais. Ça ressemble à quoi ?
Un bison, ça ressemble à, je dirais, un animal quatre pattes, des oreilles, un museau, qui doit faire un bruit assez distinctif des autres animaux que je ne connais pas.
C'est possible d'essayer ? Bon, là, ça va se corser maintenant.
Ouais, là, je sens qu'il y en a qui va se prendre un gadin.
Hop là, on passe sous la clôture électrique.
Parce que là, il y a quoi? Il y a 5 fils. Et pourquoi? Parce que c'est des bêtes qui partiraient facilement?
Non, non, c'est presque plus pour barrer, pour montrer que le mec a des bisons, puis il ne faut pas traverser, parce que tous mes collègues barrent à 2 fils. Et puis, avec ça, ben, les gens connaissent un peu le coin. J'ai quelques champignonneurs qui traversent, qui ont un petit truc, et puis qui vont chercher leurs petits champignons. Là.
Et qui passent au milieu des bisons?
Non, mais ils ont des pâturages, parce que les bisons, ils tournent, ils ont un grand tournus, là. J'ai 8 pâturages, des pâturages qui font une assez grande grandeur. Puis après, ils tournent avec les chevaux aussi, parce que j'ai les chevaux qui passent derrière ou qui passent devant, pour faire une rotation, pour qu'ils puissent bien manger la... l'herbage.
Puis là, j'ai une question qui me taraude l'esprit, là. C'est peut-être parce que je me sens concerné, mais un bison, ça charge ou ça fuit?
Ben, quand on le travaille dans les couloirs de contention, il va chercher chaque fois la fuite. Hein. On ouvre une porte, il part plus loin jusqu'à ce qu'on puisse l'attraper. Et puis autrement, moi, je pense qu'il va moins facilement charger. Il va montrer son territoire, comme ici, ben, il va montrer le territoire. On va les voir quand même de loin, de 20-30 mètres. Moi, je ne vais pas dedans pour les emmerder. Comme ce matin, je suis avec le tracteur. J'ai balancé du foin encore sur les quelques taches de neige qui me restent, là, qui soient bien au propre. Et puis, on a eu deux bébés bisons, deux veaux. Maintenant, les naissances commencent. Et puis, voilà, on va aller voir ça.
Quoi, t'as peur, Philippe?
Ouais, quand même, attends, c'est des pièces. Hein. Non, mais si tu... moi, je me rappelle les Far West quand j'étais gamin, avec ces charges de bisons comme ça. Alors, je me dis que si on va être là-dedans, c'est...
Là, il y a eu pas mal de dégâts avec les souris, les taupinières. Il y a une grosse poussée de taupes, de souris, qui ont pas mal écrasé le terrain. Donc toute la région, là, franchement, tant de par chez nous, là, c'est un petit peu problématique depuis 2 ans, mais il me semble que ça s'est un petit peu calmé.
Donc les taupes sont actives dans la région.
Ouais. Quand on est dans ce type d'exploitation comme toi, on est a fortiori plus branché sur l'écologie, sur ce genre de trucs ou pas?
À tout agriculteur, c'est propre.
Ouais.
C'est pas une étiquette. Moi, quand je vois qu'on peut trouver des aliments bio dans un supermarché, alors que normalement, un agriculteur bio a tout petit peu plus sensé qu'un agriculteur normal, parce qu'il raisonne plus vite, mais avoir commencé de se mettre le doigt dans l'engrenage des grands supermarchés, c'est dommage, parce que là, ils auraient peut-être fonctionné avec un peu plus de courage et puis pouvoir... louer des shops.
Carrément spécialisé.
Ouais. Parce que là, ben, la marge finale, c'est quand même... c'est le consommateur qui nous fait la marge finale.
On trouve maintenant une espèce de supermarché, entre guillemets, de produits agricoles de la région. Oui. On a vu ça à Yverdon, on voit ça aussi à Lausanne. Ouais. C'est une solution d'avenir pour toi? Ouais,
je crois que ça sera ça. Ouais. Et puis justement, au bout d'un moment, comme dans les chemins de fer, dans les réseaux de transport public, tu fasses des zones, des zigzags. Et puis ton produit, quand il a fait tant de zones de produits bio, ben, il s'autodétruit. Quoi. Ton label s'autodétruit. Parce que prendre des produits qui viennent d'Europe, de l'Est ou des choses comme ça, estampillés bio, puis qui doivent faire tant de kilomètres, au bout d'un moment, c'est un non-sens total.
Le fameux problème entre justement le produit local du terroir ou alors le produit bio, est-ce qu'il faut privilégier les produits du terroir pas bio ou les produits d'ailleurs bio? C'est un peu le dilemme qu'on avait.
Oui, mais de toute manière, à mon avis, tout ça va se réguler gentiment, vu les prix du carburant qui augmentent à vue d'œil. On peut imaginer que dans quelques temps, c'est le prix qui va faire la différence. Au bout d'un moment, tu dois payer le transport, donc ces prix-là vont devenir énormes, enfin ces produits-là, pardon. Et je pense que tout ça va aussi se réguler un petit peu comme les tops et les.
Non, je ne sais pas, parce que le supermarché, il veut sa marchandise. Ouais. Il le veut, qu'il ait quelques céréales, quelques trucs, il veut son rayonnage. Alors qu'il travaille à perte et puis qu'il travaille sur le gros volume après, je pense que c'est pas ça.
Ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, je suis convaincu qu'on va arriver à ces petites fermes, comme on a vu à Yverdon, ce genre de rassemblement de producteurs locaux qui mettent ensemble leurs produits et qui arrivent à faire leur petite supérette eux-mêmes. Quoi.
On en saura plus demain. On demandera leur avis au bison aussi, hein, dans Billets en tête, entre 9h30 et 10h, toujours ici au Colis avec Christian Lecomte et Philippe Ligron à partir de 9h30. Il sera question de nature, d'écologie, de politique, pourquoi pas. Et puis surtout de bison. C'est comme pour ça qu'on est venu, Philippe.
Je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée, 9h30 sur la première.
Bonjour monsieur, c'est l'émission Bille en tête sur la première. Sauriez-vous où se trouve la commune d'Orvin?
La commune d'Orvin, ça ne me dit rien du tout. Et de toute façon, je ne suis pas d'ici, moi. Alors il faudrait demander ça à un bon vaudois. Hein.
Ah ben non, les bons vaudois ne savent pas forcément où se trouve Orvin.
Non, mais quand même, parce que si vous me posez cette question-là, c'est que la commune doit se trouver dans les environs.
Pas du tout, monsieur.
Ah bon, dites
un peu. Pied sud-est du Chasseral. Le Chasseral.
J'ai entendu parler du Chasseral, oui.
C'est quoi le Chasseral?
Bah, c'est une montagne, non?
Et dessus, il y a des...
Au-dessus d'une montagne, qu'est-ce qu'il peut y avoir, à votre avis?
Mais des bisons.
Allons.
Au Chasseral, il y a des bisons.
Mais non, vous plaisantez.
Mais pas du tout, mais monsieur.
Allons.
Mais allons.
À quelle latitude?
À 1200 mètres.
À 1200 mètres, c'est encore possible, oui. Je pense que les bisons, là, pourraient vivre et survivre.
Mais ils y sont, au ranch des bisons.
Ah bon?
Mais oui, monsieur. Chez bon. Christian Lecomte.
Vous parlez franchement, ça me dit rien du tout, ça.
Vous n'avez pas envie d'aller voir les bisons de Christian Lecomte?
Bon, j'ai encore tellement de choses à voir avant de quitter ce monde pour l'autre. Je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion d'aller jusque-là. Mais si vraiment il y en a, ça doit certainement intéresser beaucoup de gens, ça. Hein?
Bille en tête avec 30 degrés, le magazine de loisirs et de sport, 30degrés.ch. La première, il est 10h.